VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, plus d'une centaine d'anciens rebelles démobilisés bloquent ce lundi matin l'accès sud de Bouaké dans le centre du pays, ville qui a été le point de départ de plusieurs mutineries en janvier. Ces contestataires qui ne sont pas armés, selon les autorités militaires ivoiriennes, réclament leur prime de démobilisation. Ils ne s'en sont pas pris au bien et à la population et aucun affrontement n'est signalé. Les forces armées ivoiriennes tiennent les autres points stratégiques de la ville, notamment l'accès nord de Bouaké. Au Mali, attaque terroriste à Al-Moustarat dans le nord du pays contre une position de l'armée malienne. Bilan, au moins 7 soldats tués, 17 blessés graves et 16 portés disparus. Cette attaque porte la marque de la nouvelle alliance terroriste que dirige le Malien Iyad Ag Ali. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Al-Moustarat est situé dans le cercle de Bourem, à 150 km de la ville de Gao. C'est dans cette localité que la position des militaires maliens a été attaquée très tôt le dimanche 7 mai 2017. C'est une voiture kamikaze qui a foncé sur la position des FAMA en détruisant deux véhicules. Le poste de l'armée malienne a été attaqué à Tarking, à 15 km d'Al-Moustarat ville. Le bilan provisoire est de 7 soldats maliens tués, 17 grièvement blessés, 16 portés disparus, 3 pick-up et des munitions emportées. Le réseau téléphonique de la localité a été fortement perturbé, ce qui n'a pas facilité la tâche aux soldats maliens. Malgré tout, la force française de l'opération Barkhane a pu évacuer plusieurs blessés graves sur Gao. Il faut signaler que ce n'est pas la première fois que la localité d'Al-Moustarat est attaquée par des individus armés non identifiés. Le 25 mars dernier, 3 soldats maliens ont été tués, 4 autres blessés, dans une attaque contre les checkpoints de l'armée malienne à Al-Moustarat, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nigeria, le président nigérian Muhammadu Buhari est parti dimanche soir à destination de Londres pour les examens médicaux. Et ce, peu après avoir reçu 82 lycéennes de Chibok libérées par le groupe djihadiste Boko Haram. C'est ce qu'a annoncé la présidence nigériane. Le porte-parole du président Buhari a fait ses déclarations après des semaines de spéculation sur la santé du président, qui est âgé de 74 ans. Soudan du Sud, la guerre civile a forcé plus d'un million d'enfants à fuir le pays et ont déplacé 1 400 000 autres à l'intérieur même du pays. C'est ce qu'ont déclaré ce lundi deux agences de l'ONU. Les enfants représentent 62% des 1 800 000 Soudanais du Sud qui ont quitté leur pays pour gagner des camps de réfugiés en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda voisin depuis le début du conflit fin 2013. A précisé un communiqué commun du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF, et du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR. Par ailleurs, 1 400 000 enfants vivent dans des camps de déplacés à l'intérieur du Soudan du Sud. L'avenir d'une génération entière est en jeu, a déclaré Leila Pakala, directrice de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et Austral.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Présidentielle en France, élue avec 66,1% des voix contre 33,9% son adversaire d'extrême droite Marine Le Pen, le pro-européen Emmanuel Macron, qui est devenu à 39 ans le plus jeune président de France, reconnaît n'avoir pas reçu un blanc-seing des électeurs après un scrutin marqué par une abstention record, plus de 25%. Mais il s'attelle dès ce lundi à la formation de son gouvernement pour mener la difficile bataille des élections législatives de juin dans un pays profondément divisé. Des chantiers majeurs attendent le nouveau président, endiguer un chômage endémique, 10%, faire face à une forte menace terroriste et relancer une Europe affaiblie. Compte tenu du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, de l'élection du président Donald Trump aux États-Unis et de la montée du courant populiste en Europe, quelles sont les perspectives pour le mandat d'Emmanuel Macron? Et que pensent ici aux États-Unis les démocrates et les républicains de la nouvelle donne en France? Un début de réponse avec le professeur Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York, au micro d'Idrissa Sedoudia.
Compte tenu de ce contexte, je crois que les démocrates ont vu les résultats avec, je dirais, un grand soulagement. c'est vrai qu'après le Brexit, après la victoire des forces populistes ici aux États-Unis, on a d'abord regardé les élections hollandaises, où il était craint à un moment donné que le parti populiste xénophobe, islamophobe, devienne le premier parti de Hollande. Cela ne s'est pas produit. Dès lors que ces élections étaient finies, les yeux étaient un peu braqués sur la France. On savait que le parti d'extrême droite xénophobe, le Front National, s'était beaucoup développé. À un moment donné, on pensait même qu'il serait le premier parti après le premier tour, et qu'il s'agissait pour les autres de se classer en second pour pouvoir aller au deuxième tour avec lui. Une bonne nouvelle, ça a été au premier tour que ce parti n'est pas arrivé premier. Au deuxième tour, évidemment, Mme Le Pen a perdu, donc la victoire est revenue à la démocratie, disons, et à l'idéal républicain. Donc il y a un certain soulagement de ce point de vue. On se rend compte qu'il y a quand même une mobilisation contre les forces populistes qui, à un moment donné, avaient semblé avoir le vent en poupe.
Alors, professeur, maintenant, il s'agit de savoir comment M. Macron va faire quand il s'agit du rôle traditionnel de la France et des opérations militaires de la France en zone sahélo-saharienne. Comment voyez-vous la suite ?
De ce point de vue-là, le rôle que la France jouait traditionnellement en Afrique, je pense qu'il y aura une certaine forme de continuité, encore que M. Macron ait parlé de l'Afrique d'une manière différente. Il a parlé d'une Afrique qui avait l'avenir pour elle, d'une Afrique où les classes moyennes avaient fortement monté, une Afrique nouvelle urbaine et qui ne demandait qu'un partenariat. Donc il y a un certain discours qui a changé. En revanche, il est bien évident que la présence militaire dans la zone sahélo-soudanienne pour des raisons de lutte contre le terrorisme, c'est une situation de fait qu'il ne va pas inverser du jour au lendemain, d'autant qu'il y a une demande des États eux-mêmes. On ne voit pas le Mali qui est encore sous la menace souhaiter que la France retire des troupes, par exemple. Donc on peut penser qu'il y a là une situation de fait, que donc M. Macron va hériter de cette situation et qu'il va être dans l'obligation de continuer la même politique, je pense.
Le professeur Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York. En Afrique, la victoire d'Emmanuel Macron inspire déjà un candidat à la présidentielle en RDC, Noël Tchiani. Pour ce haut fonctionnaire de la Banque mondiale, le succès remporté par celui qui va devenir le plus jeune de l'État français est bien la preuve qu'il ne faut pas particulièrement appartenir à un parti pour être élu. Voilà ce qu'il a dit à Christian Loussakweno de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Effectivement, je crois que le modèle Macron donne une référence qui est très appréciable. Emmanuel Macron n'appartenait pas au grand parti politique donc français. Et j'estime que dans des pays comme la République démocratique du Congo, les partis politiques aujourd'hui ne signifient absolument rien. Les partis sont souvent liés à des individualités. Et si on a un projet de société, un programme de développement qui se justifie, on peut gagner l'élection présidentielle dans un pays comme le mien.
Et c'est cela votre plan, vous qui vous êtes déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle ?
Ma vision, c'est de pouvoir rassembler tout le monde. Les gens, dans les cas des partis politiques, je voudrais attirer le plus possible des partis politiques qui adhèrent à ma vision de développement. Mais si on ne peut pas avoir des partis politiques qui se mettent donc derrière nous, je voudrais inviter le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme derrière ce projet de développement, donc le plan Marshall de Noël Tchiani pour la reconstruction de la RDC. Et si nous nous mettons ensemble, nous allons pouvoir gagner l'élection présidentielle et nous allons gérer le Congo. Nous allons fondamentalement transformer le destin de notre pays.
La différence entre Noël Tchiani et Emmanuel Macron, c'est que Emmanuel Macron, on a vu, il a été ministre quelques années, on a vu ce qu'il est capable de faire. Mais Noël Tchiani au Congo, dans aucun parti, jamais de fonction officielle. Est-ce que ce sera pour vous chose aussi aisée que le nouveau président élu en France ?
Une très bonne question. Peut-être que les Congolais n'ont pas suivi l'histoire de Noël Tchiani de très près. Je voudrais vous inviter donc à regarder comment nous avons créé le franc congolais. C'est Noël Tchiani qui avait présidé la commission, qui avait co-présidé la commission de réforme de la monnaie, qui avait conçu le franc congolais donc à l'époque. Donc c'était une contribution très importante donc à la République démocratique du Congo.
Noël Tchiani, candidat à la présidentielle en RDC. Pour terminer, 196 pays entament aujourd'hui à Bonn en Allemagne des discussions sur la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. À Bonn, les pays participants ont 10 jours pour progresser dans l'élaboration de manuels de l'accord de Paris qui est juridiquement entré en vigueur mais dont les dispositions très générales doivent être précisées d'ici fin 2018. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.